Découverte Magazine.
Découverte Magazine.
Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
Découverte Magazine.
Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.
Le partenaire de vos débats, vos échanges, vos témoignages, c'est Espoir FM. Pour avancer ensemble, c'est la table ronde avec Espoir FM. Espoir FM, plus près de vous.
Alors, comment permettre une meilleure reconnaissance du rôle citoyen et de l'utilité sociale de l'association? Eh bien, voici une question à laquelle la Fédération Paris 47 aimerait répondre facilement. Mais avant de pouvoir y répondre, il faut appréhender le vécu des associations du territoire en les rencontrant et en leur donnant la parole. En tant que fédération d'associations sans distinction de genre, Paris 47 a l'avantage de connaître déjà un panel important de la richesse associative du Lot-et-Garonne. Pour communiquer et étendre la parole des associations, surtout le département. Espoir FM, radio associative basée à Colérac-Saint-Cyr, a aussi son rôle à jouer. Alors cette table ronde, co-organisée par Paris 47 et Espoir FM, est donc un premier pas pour définir la notion de bénévole en Lot-et-Garonne, mieux connaître les besoins des associations et pouvoir être riche de propositions auprès des élus nationaux et du préfet. Alors donc pour cette première partie de cette table ronde, André Larald, le co-président de Paris 47, est notre premier intervenant. André, je vous donne la parole pour une présentation du bénévolat en France dans un premier temps.
Oui, madame, monsieur et mesdames et messieurs les responsables d'associations, cette table ronde des associations du Lot-et-Garonne est une première dans notre département. Organisée par Paris 47, en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France et animée par Aurélie d'Espoir FM, cette rencontre a pour objectif d'être le lieu d'expression de toutes les associations et quel que soit son secteur d'activité. L'Association nationale Recherche et Solidarité est un réseau d'expertise au service de toutes les solidarités et elle révèle que le bénévolat est le premier sujet de préoccupation des associations en France pour plus de 60% d'entre elles. Cette constatation est partagée dans toutes nos relations aussi avec nos adhérents. C'est pourquoi nous avons voulu vous rencontrer pour en débattre. La place des associations est essentielle dans notre société. Elle représente le moteur des animations de nos communes. Elle est la source de resocialisation. Elle est le creuset de la démocratie et le centre de l'expression citoyenne. Elle est aussi, pour certaines d'entre elles, l'aiguillon des pouvoirs publics concernant ses propres carences, comme la santé, l'environnement, le niveau de pauvreté en France, la condition féminine, le droit des enfants et des personnes âgées, bref, le porte-parole des laissés pour compte. Et enfin, toutes sont animées par des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, mais agissant d'une manière désintéressée. C'est pourquoi le rôle citoyen et l'utilité sociale de l'association doivent être mieux reconnus. Je vais vous faire un état des lieux du bénévolat en France, selon les chiffres de Recherche et Solidarité. La proportion des Français qui s'engagent dans le bénévolat est de 23% en 2023 contre 24% en 2024, représentant 1,5 million d'associations actives. Les domaines du sport représentent 20%, la culture 19% et les loisirs pour 13% sont l'essentiel des activités des associations. 153 000 d'entre elles emploient des salariés représentant 9% des salariés du secteur privé. 9%. Le bénévole ne reçoit aucune indemnisation, tandis que le volontaire a un statut spécifique au travers de l'engagement civique, par exemple, pour les moins de 25 ans et 30 ans pour les personnes en situation de handicap, d'une durée de 6 à 12 mois, et reçoit une indemnité. Il se situe pour 34% dans l'éducation pour tous, 27% dans le social et 15% dans le sport. L'engagement des bénévoles de 65 ans et plus ont diminué de 13% en 10 ans, et ceux de moins de 35 ans ont augmenté de 9% dans la même période. 60% des associations sont inquiètes sur leurs ressources en bénévoles et 55% souhaitent être aidés dans leur recherche de financement. Dans le Lot-et-Garonne, le nombre d'associations actives se situe entre 7 500 et 8 500, incluant entre 70 000 et 77 000 bénévoles. 900 associations emploient 10 000 80 salariés, dont 57,4% sont dans le social. 399 nouvelles associations ont été créées entre juin 2022 et juillet 2023, dont 19,6% dans les loisirs, pour une moyenne nationale de 11,5%, 11,13% dans le social, pour une moyenne nationale de 8,5%. Donc on voit bien que la terre du Lot-et-Garonne est surtout une terre où les gens s'engagent dans le loisir et le sport et le social. 84% des associations rencontrent des difficultés pour moderniser leur structure vers le numérique. Au regard des chiffres présentés, la dernière réforme des retraites portant l'âge de départ de 62 à 64 ans va amplifier les causes d'inquiétude des associations dans l'avenir, tant dans leur fonctionnement que dans leurs projets d'activité. La modernisation des structures associatives vers le numérique, la multiplication des normes administratives associatives, la mise en place de la loi sur la protection des données, la RGPD, pour laquelle aucune formation n'est programmée pour les associations, représente des freins à l'engagement citoyen pour le bénévolat. La mutation du bénévolat en France nécessite une profonde réflexion concernant son intégration entre le temps de travail et celui de la retraite, à la condition, bien sûr, de lui accorder une plus grande reconnaissance ainsi que le rôle social de l'association dans notre société. Un statut du bénévole, tout comme celui de l'élu, reste à être écrit. La professionnalisation du bénévolat offre une opportunité de développement du mécénat de compétences pour les entreprises à l'heure où, après la crise du Covid, les actifs même aspirent à plus de sens dans leur vie professionnelle. Il y a des pistes de réflexion donc. Concilier le travail et l'engagement. La crise sanitaire a accéléré les mutations et les bouleversements du monde du travail. Beaucoup d'actifs révisent la place qu'occupe le travail dans leur vie. En parallèle, les envies d'agir et la quête de sens se développent. Deuxième piste, c'est assurer la transition vers la retraite. Les Français pratiquent le bénévolat à tout âge. Chacun construit son parcours en fonction des multiples facteurs. Expérience dans les associations, disponibilité, tradition familiale, passion ou défense d'une cause, certains de plus en plus nombreux sont bénévoles, très jeunes, d'autres, de moins en moins nombreux, y pensent à la fin de leur carrière professionnelle. Notre but de cette table ronde, c'est donner envie aux citoyens de notre pays à agir pour un mieux vivre. Alors nos réflexions, elles seront consignées dans une résolution qui sera présentée aux élus du département en avril 2024. Donc il y aura une autre table ronde pour qu'on puisse affiner et présenter quelque chose d'élaboré vis-à-vis de nos élus, parce que ce sont eux qui font nos lois. Donc c'est important de participer à cette réflexion, en ce sens où il y aura beaucoup de choses à développer, tant dans la mutualisation des associations entre elles, et puis à essayer de passer ce cap de la modernisation de leur structure au travers du numérique, au travers aussi des nouveaux outils de travail, parce que dans une association, un trésorier n'a pas besoin d'être présent en permanence. Il peut travailler en télétravail. C'est un outil nouveau, mais à condition qu'il ait les outils pour le faire. Quelle est la place des personnes handicapées dans les associations ? C'est vrai que jusqu'à 30 ans, ils peuvent avoir des aides au travers de l'engagement civique. Ils peuvent avoir une rémunération par l'État. Mais au-delà de 30 ans, une personne en situation d'handicap n'a aucune aide pour la mobilité ou pour le travail à domicile fait dans une association. Tout ça, ce sont des pistes à réfléchir et à présenter, parce qu'on s'aperçoit qu'une association, c'est le cœur de vie d'une commune, surtout en milieu rural et même d'une ville, représente quand même l'essentiel du mieux vivre. Voilà.
Merci André Laralde. Juste avant, on va rappeler vos sources parce que on vous invite tous à les consulter. Donc sur le site internet, André a parlé de recherche et solidarité. Donc c'est recherche au pluriel -solidarité.org. Je pense que c'est important. Vous pourrez retrouver beaucoup d'informations sur le bénévolat en France sur ce site internet.
Les tables rondes avec Espoir FM. Espoir FM, plus près de vous.
C'est l'automne dans ta tête, et t'iras pas faire la fête sur la piste. Le mot d'excuse inventé, tu restes seul à écouter des chansons tristes. Pour chasser ta mélancolie,
Il y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Tu dis qu'on vit une drôle d'époque et combien prennent des médocs pour s'endormir. Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes, qu'il en faudra des colombes pour s'en sortir. Toujours allongé dans ton plume, tu presses le bouton du volume pour que les émotions t'inondent. Et tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Tu rêves d'un grand amour à vivre, pourquoi pas écrire un livre et voyager. Jamais faire partie du troupeau et puis planter le drapeau de la liberté. Entre tous ceux qui réussissent et sur les réseaux le brandissent, tu doutes de toi chaque seconde. Mais tu as ta place dans ce monde, 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 ta place dans ce monde. Comme toi, pendant que danse la ville, je me demande si je suis pile à la bonne place. Au fond, je crois qu'on est des millions à se poser la question devant la glace. Sur le parking des gens heureux, il faut parfois tourner un peu pour trouver une place dans la ronde. Et pourvu qu'elle te corresponde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde qui gronde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde.
Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
On va donc commencer cette seconde partie de la table ronde. Alors pour cette seconde partie, bénévole aujourd'hui et demain, ça c'est le titre de la table ronde, on donne la parole à Dominique Roman, maire de Bauziac, et à Guy Cluat, le premier vice-président de l'AMR 47, donc c'est-à-dire l'Association des maires ruraux de Lot-et-Garonne, parce qu'on va parler d'une forme de bénévolat à laquelle on ne pense pas forcément. Pourtant, ces dernières semaines, des faits de violence envers des élus ont fait les titres des journaux, et c'est vrai que c'est un peu aussi revenu à la une dans les sujets des journaux. Bonjour Guy Cluat, on peut vraiment dire que l'élu c'est un bénévole au même titre que ceux qui font vivre les associations d'un territoire ?
Je pense que le bénévole, il est pour un élu municipal, je crois que finalement c'est la base de tout, c'est-à-dire que l'engagement dans le monde politique au sens noble du terme, effectivement, c'est s'engager pour être au service des autres. Donc, les élus qui s'engagent normalement dans leur commune, c'est parce qu'ils veulent défendre leur territoire, c'est parce qu'ils veulent défendre leurs associations, leurs administrés et être au plus près d'eux. Ce que nous défendons, nous, au niveau de l'Association des maires ruraux de Lot-et-Garonne et de France, c'est finalement ce rôle de proximité qui est le lien entre nos populations et le pouvoir directeur, si je puis dire, de la commune. Voilà. Sans les bénévoles, sans les conseillers municipaux, sans le maire, sans les adjoints, eh bien, ça veut dire que notre République serait en danger. Et je crois qu'aujourd'hui, force est de constater que par rapport à la crise de Covid, par rapport aux différents mouvements sociaux, que ce soit la crise des Gilets jaunes ou d'autres éléments, eh bien, on a pu remarquer que le maire et ses conseillers municipaux étaient en première ligne pour amener finalement ce soutien aux citoyens et pouvoir les rassurer. Et je pense que pour parler de cela, ma collègue Dominique, qui est maire de Bauziac à côté, pourrait encore mieux témoigner de ce rôle de proximité que le maire et son conseil amènent tous les jours au quotidien à nos populations.
Parce qu'en effet, oui, je le rappelle, Dominique Roman, vous êtes donc maire du village de Bauziac. C'est à peu près 230 habitants, c'est bien cela ?
Oui, 238 au dernier recensement.
D'accord. Et pour vous, c'est votre premier mandat ?
C'est mon premier mandat en tant que maire, mais c'est mon troisième mandat dans l'équipe donc municipale, avec effectivement une autre charge de travail en tant que maire, parce que précédemment, je n'étais pas encore à la retraite. Donc, enseignante, j'étais sur le village, mais pas vraiment aux commandes. Ponctuellement, en venant en aide aux maires en place, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, on dit souvent qu'être bénévole, c'est apporter quelque chose, c'est donner, c'est aussi en retrouver des avantages, puisque bah, quand on donne, ça apporte quelque chose qui fait du bien pour soi-même, c'est une certaine richesse aussi. Quels sont, et j'entends par là quand je dis avantages, quels sont les avantages et les obligations d'un élu ? Et quand je dis avantages, justement, je parle de cette richesse personnelle que vous pouvez acquérir grâce à...
C'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment à ces mots-là. Avantage et si vous voulez, bon, quand on est tombé dans la marmite du monde associatif à 13-14 ans, on se passe pas trop de questions, c'est-à-dire qu'on y est bien ou on serait parti en courant il y a longtemps. Je suis dans plusieurs associations et groupes qui ont des responsabilités. La mairie, c'était quand même autre chose parce que au départ, on n'avait pas vraiment un groupe qui travaillait ensemble. Lors des précédents mandats. Pendant notre campagne, ça a été le vivre ensemble qu'on a mis en avant. Et ce qui me conforte un petit peu dans ce que je fais au quotidien, malgré les difficultés, c'est que le groupe existe de mieux en mieux, vit de mieux en mieux. On ne finit pas un conseil municipal sans rester à discuter une heure de plus entre nous, par-delà l'heure du jour. Et j'ai quand même 3-4 personnes qui n'ont pas les obligations du travail, des enfants en bas âge, qui sont capables de répondre très vite. Donc, on a remis un peu le fonctionnement associatif dans l'équipe pour savoir que chacun connaît les potentialités de l'autre et cherche à les mettre en valeur. La reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre dans l'équipe fait que ça marche. Donc, avantage au quotidien, c'est pas pour moi le bon mot, c'est le plaisir d'avoir un groupe autour qui fonctionne et qui sait qu'il a de l'importance. Inconvénient, c'est le chien qui a mordu le chat de la voisine et puis des personnes quand même qui portent un certain mal-être et pour qui on n'a pas toujours les bonnes solutions. D'où l'intérêt d'être au sein d'un réseau associatif important, puisque je dois tremper dans 5 ou 6 associations, où je vous en parlais tout à l'heure. Nous, on a déjà mutualisé. On sait dans les villages qu'on a autour de nous qui aller demander. Par-delà tout ça, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de parler de mon association Chrysalide 47, où nous avons notre propre graphiste à qui on demande du travail des fois pour les autres assos. Donc c'est vraiment, je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. On ne peut pas faire tout seul. La transversalité est incontournable à l'heure actuelle. Il faut trouver le vaccin contre l'anti-ego, parce que certaines personnes n'ont que ça pour exister et nous font beaucoup de mal. Moi, j'ai eu des putschs internes parce que tout d'un coup, on avait besoin d'exister. Quand on me dit on voit pas ton nom, je dis mais moi j'ai pas besoin qu'on sache que ça vient de moi. L'important c'est qu'on avance ensemble pour aller plus loin. Donc partant de là, vous comprenez que c'est pas des avantages, c'est un mode de vie.
Eh bien, en tout cas, merci Dominique Roman. Alors, on parle d'unions qui font la force Guicclua. Les maires des villes de France se regroupent aussi au travers d'associations comme la MR 47. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de cette association ?
En France, il y a de nombreuses associations. Bon, la plus ancienne, c'est l'Association des maires de France. L'Association des maires ruraux de France est créée en 1971 en rébellion à la loi du ministre Marcellin qui souhaitait supprimer les 36 000 communes de France pour en ramener à 1000 communes sur le territoire. Donc ça veut dire que ben, les gens, les élus des communes de ces 36 000 communes se sont rebellés et ont créé l'association en 1971. Voilà. On s'aperçoit aujourd'hui que malgré le travail qui a été fait par ces précurseurs, ben, on est toujours dans la même mouvance au niveau de la façon de gouverner le pays et que dans les hauts ministères, malgré la succession de présidents, de ministres, eh bien, cette mouvance persiste toujours à travers eh bien, le fait de pouvoir regrouper plusieurs communes pour n'en faire qu'une ou regrouper des communes vers des intercommunalités. Bon, voilà. Tout ça fait que c'est assez préjudiciable parce que finalement, notre histoire montre la richesse de nos communes. Notre terroir, eh bien, ce sont effectivement les traditions qui se génèrent à travers ben, les petites communes. Nous représentons 88% du territoire et 33% de la population. Je veux dire, c'est pas neutre. Il faut aujourd'hui que ben, le gouvernement l'entende. Alors, il y a une prise de conscience, mais enfin, on est quand même toujours très loin du débat de partage, c'est-à-dire par rapport aux dotations, les dotations, la dotation générale de fonctionnement, ce qu'on appelle la DGF. Aujourd'hui, elle est deux fois moins importante pour une commune rurale que pour une commune urbaine. Donc, il n'y a pas d'équité. Donc, c'est un peu pour ça que l'on a, nous, on continue à essayer de travailler pour que finalement, il y ait un territoire qui est ce territoire rural qui soit reconnu. Donc, on s'aperçoit aussi que avec les énergies renouvelables, avec tout ce qui est en train de se passer en termes énergétiques, nos territoires ruraux sont une force. Ils sont une force dans le monde agricole, hein, par la production de tout ce qui est l'alimentation, mais aussi la production en eau, en électricité, à tous les niveaux. Et donc, il faut que ces richesses, si on veut qu'elles soient acceptées dans les énergies renouvelables de demain, puissent être aussi récompensées et que les communes des communes rurales puissent aussi avoir des soutiens de l'État pour s'engager dans les énergies renouvelables.
Est-ce que, comme André Laralde a fait le constat en première partie des inquiétudes des responsables d'associations concernant le futur du bénévolat dans nos territoires, est-ce que concernant la vie politique locale, on ressent ça également ? Est-ce qu'il y a moins d'implication des citoyens pour la vie politique locale ? Guicclua ?
Ah ben, écoutez, personnellement, moi je suis tombé dans la marmite dès mon plus jeune âge. Je suis issu d'un village de Saint-Laurent qui a 500 habitants, où il n'y avait pas grand-chose. Donc ce qui voulait dire que si on voulait se créer une association, enfin, si on voulait faire du sport, il fallait se créer une association sportive. Si on voulait avoir de la culture, il fallait se créer une association culturelle. Donc c'est vrai que tout le bénévolat part d'abord de l'engagement du citoyen, quel que soit son âge. Hein. Et donc ça veut dire que le maire d'Aiguillon l'a bien précisé en disant qu'il avait reçu et il serait important que quand on reçoit, on soit capable de donner. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les gens profitent du système et puis quand il s'agit de s'engager, c'est assez compliqué. Pour ma part, j'ai encore cette passion. Bon, je ne sais pas si elle durera longtemps, mais bon, voilà, j'ai été président d'un festival de musique pendant 20 ans. J'ai été président du club des Vélivoles à Agen pendant 10 ans. Je suis aujourd'hui président fondateur de l'Association des maires ruraux de Lot-et-Garonne. Je combats avec mes collègues pour essayer de mettre en avant cette ruralité qui est dynamique et qui est vivante. Donc c'est vrai que c'est d'abord une passion et c'est d'abord un engagement d'être humain de tous les jours. Donc bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de carence ou de baisse dans le bénévolat, mais je crois que à travers des actions comme aujourd'hui, plus on en parlera, mieux ça sera. Donc je voulais remercier Aurélie, voilà, et Espoir FM pour avoir animé ce débat. J'espère que ça permettra de faire naître de nouveaux bénévoles. Mais bon, je crois que voilà, la passion, elle passe d'abord par l'engagement citoyen de tout le monde, qu'il soit jeune, dans la vie active ou retraité. Voilà. Et donc ça va être le combat que Paris 47 mènera à nos côtés et nous l'aiderons pour essayer de réussir le mieux.
Merci Guy Clua et Dominique Roman. On pourrait encore discuter pendant longtemps, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est un premier débat pour lancer les sujets. Et bien entendu, c'est avec plaisir qu'on pourra aller un peu plus en détail.
Les tables rondes avec Espoir FM. Espoir FM, plus près de vous.
Jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver, des petites jolies choses. Parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste.
Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
Donc, troisième partie de cette table ronde sur le thème bénévole aujourd'hui et demain. Alors, nous allons maintenant parler des personnes en situation de handicap. Le bénévolat, nous le savons, c'est une richesse pour les relations sociales. C'est aussi un moyen de se valoriser, de reprendre confiance en soi. Il faut aussi avoir du temps à donner, ça on l'a dit. Beaucoup de personnes en situation de handicap ont le profil et le temps pour le bénévolat. En revanche, elles sont réellement peu présentes dans les équipes des associations. Alors pourquoi ? Eh bien pour en parler, j'ai donc à mes côtés Michel Acari, donc c'est le monsieur Bouchon en Lot-et-Garonne. C'est aussi une personne engagée dans le milieu handisport depuis plus de 35 ans. Il a donc donné beaucoup de son temps et de son énergie pour les associations qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap. Et puis nous avons aussi invité Mathieu Bertrand. Il est accompagnateur de projets inclusifs sur le centre ressources régional Trisomie 21 à Beauvais. Alors l'inclusion et le bénévolat. Ça pourrait être une combinaison gagnante, Mathieu, dans le quotidien des personnes en situation de handicap.
Bonjour, oui, totalement. Et c'est le cas aujourd'hui. Notre cheval de bataille, nous, sur le centre ressources régional Trisomie 21, pour resituer un peu, c'est vraiment être tourné vers le milieu ouvert. Le milieu ouvert pour faciliter vraiment... je parle vraiment de l'inclusion avec un grand I, c'est-à-dire pouvoir permettre aux personnes de bénéficier de l'accès aux droits communs. Le bénévolat en fait partie, ça fait partie de la vie sociale de chacun, et moi c'est mon métier et j'y œuvre tous les jours pour le permettre. C'est un combo gagnant parce que ça a été évoqué, hein, le bénévolat c'est, ça permet de rompre l'isolement, c'est un vecteur de lien social aussi, ça permet la prise de confiance en soi effectivement, et dans notre travail, on accompagne les personnes à l'accès à l'emploi, à l'accès à la santé, à l'accès à la vie sociale. Moi, c'est vraiment une de mes spécificités, hein, parce que le centre ressources est divisé en trois pôles, un pour l'école, la formation, le travail, un pour l'accès à la santé et un pour la vie sociale sur lequel je suis. Et j'ai pu expérimenter que le bénévolat et le handicap, ça marchait. Et pourquoi ça ne marcherait pas, j'ai envie de dire. J'ai pu travailler avec l'association Zone d'Opportunité, qui est basée sur Agen, et qui justement aussi en fait son cheval de bataille. Elle organise des événements, notamment des kermesses, où les stands sont animés et tenus par... des personnes en situation de handicap et par des personnes sans handicap. Donc c'est possible. Moi j'ai accompagné une personne justement en situation de handicap à se rapprocher de cette association. Elle a pu participer à plusieurs événements, ça a été valorisant pour elle et aujourd'hui elle s'en est servie comme expérience parce qu'elle a décroché un CDI dans une cantine scolaire. Elle a pu s'appuyer sur cette expérience là. Il faut le voir aussi là-dessus, ça rompt l'isolement mais ça permet aussi de faire valoir ses compétences, notamment pour accéder à l'emploi. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que les personnes en situation de handicap, elles ont à apporter à la société comme n'importe qui. Moi, je le dis à chaque fois, je le répète, avant le handicap, ce sont des personnes comme tout le monde. Le handicap, ça vient en plus et on fait avec et on travaille avec. Mais c'est hyper important, effectivement, le bénévolat. Et je le redis, être en situation de handicap et bénévole, c'est 100% faisable.
Alors pourquoi elles ne sont pas autant présentes dans les associations ? Alors il y a deux questions. Quels sont les freins pour les associations à recevoir des personnes en situation de handicap ? Et quels sont les freins de ces personnes en situation de handicap pour aller vers les associations ?
Alors, de ce que j'ai pu voir, les freins pour les associations, c'est peut-être un peu le frein qu'on se met tous, hein, par rapport aux situations de personnes en situation de handicap. Ça peut être tous les a priori qu'on a, les préjugés, la peur, hein, finalement, qui... On a peur de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on connaît le handicap, où on connaît les spécificités du handicap, tout ça tombe. Il y a la glace se brise et on a envie d'aller vers l'autre comme on va vers n'importe qui. Donc ça, c'est un premier frein qu'on se met nous-mêmes. Hein, ça, je ne peux que conseiller de se renseigner tout simplement auprès des associations, qui accompagnent les personnes en situation de handicap, les établissements. Après ça va, c'est lié avec aux appétences, hein, qu'on a. Il y a des personnes qui sont qui ont cette peur-là, qui n'ont pas envie. Il faut le respecter aussi. Mais généralement, quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, c'est quand même on a une sensibilité aussi. On ne fait pas ça pour rien. Moi, je ne fais pas ce métier pour rien. Je le fais parce que j'ai une sensibilité par rapport à ce milieu-là. Les freins aussi donc liés aux personnes en situation de handicap elles-mêmes, ils sont multiples. Ça a été évoqué, le Lot-et-Garonne, c'est quand même un territoire hyper rural. On a un énorme problème au niveau de la mobilité. J'ai envie de dire, c'est un des premiers freins, la mobilité. La difficulté de pouvoir accéder aux événements, des associations, en avoir conscience que dans ma commune, j'ai des associations auxquelles je pourrais m'ouvrir, etc. La mobilité est aussi des premières, c'est la non-connaissance en fait du mot tout simplement de bénévolat. Les personnes qui ne savent pas ce que c'est le bénévolat ou alors qui ne comprennent pas. On leur a dit, alors nous c'est aussi notre cheval de bataille, on essaye de faire en sorte que toutes les personnes qu'on accompagne, si c'est dans leur projet, puissent accéder à un emploi comme n'importe qui. On parle d'un emploi dans le milieu ouvert, pas un emploi dans un établissement spécialisé. Ça existe. Tant mieux, il y a des personnes qui sont à l'aise avec ça, mais nous c'est pas nos objectifs. Nous c'est vraiment accompagner vers le milieu ouvert et on leur apprend que travailler c'est gagner de l'argent. Là le bénévolat c'est autre chose, c'est on travaille, on donne de son temps, on n'est pas payé, j'ai envie de dire financièrement, on est payé d'une autre manière. On est payé avec du lien social, avec du partage, avec des rencontres. Et il faut aussi leur expliquer que c'est une richesse. Elles le comprennent quand on prend le temps de leur expliquer et quand elles expérimentent. Il faut passer par l'expérimentation. Donc je dirais, voilà, moi de ce que j'ai vu, c'est ces deux premiers freins là. La méconnaissance de tout simplement du bénévolat et la difficulté de pouvoir accéder aux associations et aux événements organisés par les associations.
Merci Mathieu Bertrand. On va maintenant donner la parole à Michel Acari. Beaucoup d'associations ont pour objectif d'améliorer la vie des personnes handicapées. Beaucoup de bénévoles sont impliqués dans ces missions, mais la personne en situation de handicap elle-même peut être une richesse aussi pour les associations. On en a parlé un petit peu avec Mathieu. Vous qui avez longuement œuvré dans ces associations, quel est votre avis là-dessus?
Alors mon avis d'abord, en premier monsieur, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Comme j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit auparavant, comme je me plais à le dire, je ne suis plus la première fraîcheur, j'ai 76 ans. Donc je me suis pas mal baladé à travers le monde en tant que retraité de la Défense nationale, au niveau du milieu handisport, au niveau international, puisque j'étais arbitre handibasket au niveau international. Je me suis quand même pas mal baladé dans le monde et en Europe et j'ai eu l'occasion de faire le parallèle avec la façon dont sont perçus les volontaires au service du bien-être des autres. Il y a une très grosse différence entre le milieu anglo-saxon, le milieu africain que j'ai eu l'occasion de côtoyer et ce qui se passe réellement chez nous. En fait, on n'a plus du tout la notion du don de soi. Tout ce qui est fait maintenant, c'est si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Alors non pas intellectuellement parlant, mais socialement parlant, qu'est-ce que je vais avoir en retour pécuniairement parlant? Et ça reste pour moi une grande énigme. Donc, ben voilà, ça fait maintenant 50 ans que je suis dans le milieu du bénévolat, plus de 35 ans que je suis dans le milieu handi, et au travers de mon expérience, je me suis rendu compte que finalement, pardon d'être irrévérencieux ou peut-être grossier, mais les handicapés resteront aux yeux de beaucoup de monde et de la société des cassos, parce que c'est un terme qui est employé, croyez-moi, je l'ai entendu. On regarde les handicapés comme des cassos. Je viens d'écouter ce qu'a dit Mathieu. En fait, un cassos reste un cassos, parce qu'on est tous cassos. Nous sommes tous des cassos. Ce qui m'a intéressé dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a le mot inclusion et intégration. Nous sommes tous des personnes inclusives et nous sommes tous des personnes en situation d'intégration. Quand j'ai démarré dans le milieu du handicap, on ne parlait pas de personnes en situation de handicap, on parlait de personnes handicapées. Et pour moi, ceci a une très très grande signification. Maintenant, que vous dire de plus que ces personnes sont comme vous et moi, qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi et eux. Quand j'ai démarré dans le milieu du basket handisport, puisque j'étais arbitre de basket, je suis tourné vers l'handisport. Un jour, une fille m'a dit, elle est championne paralympique. Elle m'a dit, Michel, mais je ne suis pas handicapé. Alors par contre, effectivement, c'est là où j'ai dit, mais il y a une grande différence. Effectivement, j'ai dit, il y a une différence. Non, je parlais à son époque des gens assis et des gens debout. Moi, je suis une personne debout, et toi, tu es une personne assise. Mais tu me ressembles et tu es comme moi. Alors, je ne sais pas si c'est le cœur qui est en train de parler, là. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ça. Mais bon, pas évident. Maintenant, pour ce qui concerne le bénévolat. Le bénévolat, ben voilà, on donne de soi. Hein. On donne de soi, mais je suis entièrement d'accord avec ce que nous sommes appelés, nous avons conversé. Je crois qu'il y a un moment où, effectivement, il va falloir reconnaître le statut du bénévole. Le statut du bénévole. Alors, je ne voulais pas qu'on en parle, mais je suis venu en tant que citoyen, là. Je ne voulais pas qu'on en parle, mais avec Stéphanie Hutrel, en l'an 2000, à la demande de, pour ce qui me concerne, moi, à la demande de l'entraîneur de l'équipe de France handibasket, on a mis en place en Lot-et-Garonne une association qui s'appelait Un bouchon à sourire 47, qui est devenue les bouchons d'amour au niveau national. Et j'ai été aidé en cela par Philippe Benetton et par Daniel Dubroca. Alors, où tous les politiques me fermer la porte parce que le handicap, c'était quelque chose qui dérangeait. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter parce que vous allez penser que je suis là pour me venger. Ce n'est absolument pas ça. C'est justement un compte-rendu tout simple de ce qu'est la vie. Ben, écoutez, je ne sais pas si je vivrai encore longtemps, mais en tout cas, croyez-moi, je continuerai à défendre ce que vous défendez et ce que vous représentez.
Merci Michel Hakkari, une vie riche d'expériences et de témoignages et de rencontres. On pourra en parler bien sûr encore très très longtemps, mais voilà, aujourd'hui on est limité par le temps. On va maintenant clôturer cette troisième partie.
Les tables rondes avec Espoir FM. Espoir FM, plus près de vous.
Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, grimper, sève, rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt et plaines, entrez dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez. Relevons votre défi et nous lançons notre cri. Vivre. Planètes inhabitées, grands cailloux de l'univers, écoutez la folie de la terre. Vivre.
Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
On va maintenant lancer cette dernière partie de cette table ronde donc proposée par Paris 47 et Espoir FM sur le thème du bénévolat. Alors je pense que nous pouvons affirmer que le manque de reconnaissance du statut de bénévole, eh bien ça entraîne un frein dans la liberté de s'engager dans la vie associative. Alors est-ce qu'il faut, André Larald, un encadrement du statut du bénévole?
Le bénévole, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rentre dans une société où on fait quelque chose, mais en même temps on se pose la question, qu'est-ce que ça va nous rapporter? le bénévole est à des lieux de tout ça. C'est-à-dire le bénévole, il se mobilise, il agit d'abord par passion pour écouter puis pour faire avec d'autres ce qui lui semble plus juste, sans rétribution. Le statut de bénévole, c'est vrai, c'est une reconnaissance. Mais la reconnaissance, je pense, elle viendra aussi d'abord dans les associations par l'ouverture, par l'écoute du nouveau bénévole qui vient, la place qu'on lui fait, la parole qu'on lui permet de prendre et puis l'utilité qu'on lui fait ressentir à être dans notre association pour les actions que l'on mène. Ça, c'est une première chose. Maintenant aussi, il y a un autre volet, j'en ai parlé tout à l'heure, expliquer dans les entreprises la crédibilité que représente une entreprise à faire du mécénat de compétences. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui permet de pallier au manque de professionnalisme dans les associations. C'est aussi mobiliser le monde du travail dans cette entreprise à l'ouverture à l'autre. C'est aussi ouvrir la possibilité aux actifs qui ont, au travers du mécénat de compétences, leur ont ouvert la porte pour leur dire « Plus tard, vous avez la possibilité d'être dans une association, etc. » C'est-à-dire que ça doit être reconnu déjà au niveau de la société, mais aussi au niveau des politiques. Il y a des associations qui sont reconnues, je pense notamment aux aidants. Lorsqu'à un moment donné, ils ont besoin de présence pour s'occuper d'un enfant, d'un parent ou d'un ami, ils ont des compensations en matière de droits pour la retraite, par exemple. S'ils travaillent, ils ont droit à des congés. Ce sont des droits sociaux. Mais la reconnaissance, ça n'est pas, c'est aussi d'affirmer auprès d'une personne au travers, par exemple, d'un CV. Lorsqu'un demandeur d'emploi marque une rubrique « Je suis bénévole dans telle association pour dans tel et tel objet », c'est aussi une reconnaissance de l'employeur de ce côté humain de la personne. Ça passe par beaucoup de choses. Mais notre revendication par rapport aux politiques, c'est vrai que un bénévole, dans le sens où il participe à la vie d'une commune, où il est le garant des carences de l'État, je pense aux associations humanitaires qui font des choses extraordinaires pour redistribuer de l'alimentaire, aux droits des enfants, aux droits des personnes âgées, c'est aussi leur rôle de leur donner un statut, je ne sais pas comment le définir, mais quand même un rôle important dans la société. Au même titre que le statut de l'élu, on en a parlé, parce que l'élu, il est d'abord avant tout bénévole. Il s'ouvre aux autres pour agir pour les autres, pas pour lui, au travers de diverses fonctions politiques qu'il peut y avoir dans le pays. Et on voit à l'heure actuelle la non-reconnaissance publique vis-à-vis des élus qui se font agresser tous les jours. C'est insupportable, ça. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'élu, c'est-à-dire qu'on agresse non seulement un élu, mais aussi un bénévole. Et ça, c'est insupportable. Il y a des moyens de discussion. Notre société se fragmente, s'individualise. C'est aussi à nous, bénévoles, de dire il y a d'autres circuits de communication par l'écoute, par la parole, sans s'invectiver.
André Larald, est-ce que un encadrement du statut de bénévole, ça ne serait pas aussi le risque d'avoir d'autres limites? Je pense notamment aux charges administratives des associations. Est-ce qu'un statut de bénévole mieux encadré, ce n'est pas des charges administratives en plus, par exemple?
Non, vous savez, je pense qu'un statut de bénévole, ça peut passer aussi tout simplement par une attestation d'une association, une personne qui a travaillé bénévolement pendant X années dans une entreprise. Le fait de produire cette attestation lui donne pas un droit, mais une reconnaissance par rapport à beaucoup de choses, par rapport à son environnement. Ça, c'est une des premières choses. Souvent de fois, c'est vrai que le bénévole qui vient dans une association ou qui y travaille, il n'est pas demandeur d'une reconnaissance spécifique dans les structures existantes. Elle n'est pas là, la question. C'est aussi un travail, la reconnaissance du bénévole, en premier lieu, dans l'association où elle travaille. C'est-à-dire que quand elle franchit la porte de l'association, elle est persuadée que le bénévole qui rentre dans l'association, il est attendu et il a un rôle social important à jouer. S'il est persuadé de ça, le bénévole restera.
Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui semblent convenir? Alors, il faut que ça convienne aussi à l'ensemble des associations. C'est ça qui peut être un peu difficile. Est-ce qu'il y a d'autres pistes, André Larald, que vous souhaitez soulever?
Alors, il y a des moyens, c'est-à-dire que, par exemple, un jeune demandeur d'emploi, il a la possibilité de faire valoir son parcours de bénévole dans une entreprise. On appelle ça les acquis de compétences. Souvent, deux fois, c'est très rébarbatif au niveau des associations parce que c'est des formules à remplir, à tester, etc. C'est déjà compliqué. Ça pourrait être facilité, certes.
Est-ce que ça peut convenir à toutes les associations, quelles qu'elles soient ?
Oui, il faut faire simple, c'est-à-dire un bénévole, il est là. C'est la définition du bénévole. Désintéressé, il se tourne vers l'autre pour lui apporter une aide. Point. Il y a, certes, dans le monde du bénévolat, il y a des, ce qu'on appelle les volontaires qui sont engagés par exemple, l'engagement civique, et qui est de l'ordre de 6 à 12 mois. Et selon son âge, il peut avoir droit à une indemnité, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans l'inclusion. Mais le bénévole qui est complètement désintéressé, il doit être connu au travers de toutes les associations pour ce qu'il fait.
Eh bien, en tout cas, merci André Laralde. Cette table ronde avait pour objectif de lancer le débat, de créer des échanges. C'est en tout cas un point de départ pour d'autres rencontres, car il y a beaucoup à dire. Mais on va devoir mettre un point final à cette première table ronde. Alors, avant, il est important donc de remercier la ville d'Aiguillon pour son accueil. Merci aussi à l'équipe du cinéma Le Confluent. Merci aussi à l'Association des maires ruraux de Lot-et-Garonne, à Michel Acari et Mathieu Bertrand. Merci à toutes les associations pour votre participation et merci aussi à tous les bénévoles de Paris 47 pour ce travail en collaboration avec Espoir FM. Preuve que travailler ensemble, c'est une richesse. Et puis, pour terminer, et parce que nous parlions de valorisation et de reconnaissance des bénévoles, on peut conclure cette table ronde par la citation de la romancière et conférencière américaine Sherry Anderson. Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais c'est parce qu'il n'a pas de prix. Merci à vous.
C'était Découverte Magazine.
Découverte Magazine.
Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne.
Découverte Magazine.
Présenté par Aurélie Véron.